Écoute, je crois que ça a été une année difficile pour tout le monde, qu'il est temps que nous aussi on prenne des vacances. Donc je te propose qu'on enregistre un dernier épisode et qu'on revienne frais et dispo en 2022 avec un nouveau générique et une nouvelle formule et des épisodes deux fois plus longs mais qui sortent deux fois moins rapidement.
C'est ce qu'on appelle du teasing de qualité, ça.
Disons ça pour le moment.
Ok, bah écoute, ça me va très bien. Mais alors, quelle meilleure manière de célébrer 2021, Anthony, que de faire le récapitulatif de notre boîte préférée, et j'ai nommé Apple.
Moi, ce que j'ai bien aimé cette année, c'est que ça a vraiment été une année difficile pour tout le monde. Même pour eux.
C'est vrai, ouais.
Il y a un côté très... Ça te rend humble, quoi, tu vois. Même eux, ils ont, face à l'adversité, ils ont dû plier cette année. Je trouve ça... C'est la première fois depuis... Je sais pas toi, hein, mais depuis bien longtemps que je me souviens plus facilement des polémiques qui ont émaillé l'année. Que des produits, où il a fallu que je fasse un effort pour me rappeler de la liste des produits qui sont sortis cette année, alors que je peux te faire la chronique des polémiques bonnes ou mauvaises, hein, parce qu'il y a des bonnes polémiques et il y en a qui sont bien plus mauvaises, qui ont émaillé leur année.
Oui, c'est ça, il y a eu des doubles difficultés, quoi. Une sur la marque en tant que telle, sur sa position et sa politique, et l'autre sur les produits, leur disponibilité et tout ça, quoi.
Oui, je trouve fantastique qu'en 2020, ils ont relativement bien tenu le choc.
Oui.
Ils font même partie très clairement des gagnants de la pandémie, enfin comme énormément de boîtes dans le secteur, mais eux peut-être plus encore que d'autres parce qu'ils sont dans cette position assez unique où ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne. Donc c'est pas seulement tu consommes plus de contenu ou tu consommes plus de services, ce qui a propulsé Netflix ou Zoom ou Google très très haut dans les données financières, mais c'est aussi parce que tu achètes du produit, enfin ce retour en force du Mac et de l'ordinateur de manière générale, et parce qu'ils ont tout ce qui va autour, quoi, le logiciel. Et donc là, ils ont vraiment en 2020 pu profiter de cette intégration complète du matériel, du logiciel, du service. Ils ont gagné sur les trois tableaux, mais on a vu qu'en 2021, enfin
Ouais.
Ils peuvent pas se battre contre les lois de la physique et contre les lois de l'industrie et contre les lois de la nature et qu'ils ont été rattrapés par ça. Et
Ouais.
quand t'es le directeur financier de la plus grande boîte du monde qui te dit on a raté 6 milliards de dollars de ventes à la rentrée, on a un trou de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Enfin, 6 milliards de dollars, il y a des boîtes qui seront très heureuses de faire ça comme chiffre d'affaires par an et eux, c'est ce qu'ils ont loupé comme vente sur le trimestre de la rentrée, quoi. J'ai beau les suivre depuis très très longtemps et j'ai beau être assez à l'aise avec les chiffres, c'est le genre d'échelle qui te... Enfin, c'est inconcevable, ridicule. Enfin, 6 milliards de dollars, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Combien de millions d'iPhone? Enfin, c'est...
Oui, c'est ça, on est tellement hors de toute proportion, quoi. Ça paraît à la fois dérisoire et complètement démesuré. Tu dis que 6 milliards sur le trésor de guerre qu'ils ont accumulé, bon, voilà quoi. Et en même temps, 6 milliards, quoi, merde, quand tu y repenses, c'est 6 000 millions. C'est beaucoup.
C'est un peu d'argent.
Ouais, c'est. Je n'ai pas découvert d'autant, mais pas loin, mais c'est beaucoup d'argent.
Et ils te disent ça, et en même temps, ils ont pas arrêté ce mécanisme que j'aime assez peu, mais qui est le mécanisme de versement d'un dividende et de rachat d'actions. Enfin, le rachat d'actions, c'est un vrai problème, hein. L'entreprise n'est pas censée... Elle n'est pas là pour acheter ses propres actions, elle n'est pas là pour avoir son propre intérêt en tête, en tout cas son propre intérêt financier, ça c'est le boulot des actionnaires. Elle n'est pas censée être son propre actionnaire dans ce sens-là. Mais c'est aussi ce qui fait la force de frappe financière d'Apple, c'est qu'ils jouent à fond les pires travers du système. Et on a raté 6 milliards de dollars, mais en même temps, on a racheté nos actions à vil prix, on a continué à entamer notre trésor de guerre et pour arriver à cette position où dans les années qui viennent ils auront 0 dollar net de cash en main puisqu'ils auront autant de dettes que de cash en main. C'est tout cela est fort étrange, mais ça prouve que oui ils sont pas immunisés contre les effets du virus. Cette espèce de on repousse chaque mois ou presque on repousse la date de réouverture.
Oui.
Du plus grand campus techno de la planète, ce bâtiment à 5 milliards de dollars, TF1 qui a posé ses caméras en prétendant que c'était la première fois qu'il y avait une chaîne de télé qui venait à Cupertino.
TF1, enfin, merci, quoi.
ce grand moment de désinformation à 20h, c'était quand même terrible. On a fermé des Apple Store, on a rouvert des Apple Store, et puis là, on referme des Apple Store. Enfin,
ouais.
Ils sont pas immunisés contre ça, et ça, enfin, quelque part, ça montre aussi que cette situation est... Elle est hors norme. Elle est autant hors norme qu'Apple peut l'être, quoi. Il a fallu une pandémie pour qu'on puisse avoir une force qui défie l'entendement de la même manière qu'Apple, quoi. C'est quand même...
Oui, c'est un montre l'échelle, effectivement.
Mince, quoi.
C'est super intéressant ce que tu dis sur les magasins, parce que une autre crise qu'ils sont en train de subir, c'est une crise liée au personnel. Et je pense notamment aux gens qui travaillent en retail. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? On dit kudos? On dit quoi? C'est quoi un mot d'encouragement?
J'ai envie de dire continuer, parce que c'est une situation qui montre bien que on a un souci systémique sur qu'est-ce que c'est que le travail et qu'est-ce que c'est que l'emploi, c'est quoi la différence entre le travail et l'emploi.
C'est encore plus d'ailleurs Apple Retail France qu'Apple Retail US, mais après je vais pas non plus juger ce que je connais pas par cœur, mais...
Oui, complètement. Enfin, même quand tu parles aux partenaires d'Apple, c'est très clair que Apple Europe est plus royaliste que le roi, et que, enfin, toi comme moi, on a travaillé avec les deux échelles. On a été confronté à des gens qui travaillent deux échelles, et quand les Californiens débarquent en France et que tu leur dis ce que les Français font, ils sont outrés, quoi. Mais clairement, ce qui est bien avec Apple, avec cette échelle, c'est que quelque part, c'est un microcosme du système en entier. Et tu vois, hein, du travail, il n'en manque pas chez Apple. Ce qui manque, c'est de l'emploi, et de l'emploi avec un salaire décent. Et on voit aujourd'hui les limites du système, et on voit... oui, ils ont, grosso modo, 60 à 70% des gens qui travaillent chez Apple, c'est des gens qui sont là pour vendre des produits, et en ce moment, les boutiques sont fermées, ou ouvertes en mode dégradé, et on voit de la souffrance, souffrance qui était déjà là, mais qui est révélée. Enfin, que les syndicats soient encore à gratter des centimes d'augmentation ou des prises en compte correctes, des déplacements, des prises en compte correctes du ticket restaurant, enfin, bordel, quoi.
Ouais, ou même juste de la sécurité, quoi, de la simple sécurité, de la manutention, des choses comme ça. On sait que les stocks d'Apple sont quand même des denrées très convoitées, et à un moment, il faut faire attention aux gens qui manipulent ces stocks. Et c'est vraiment le bas de l'échelle, quoi. Et je dis ça sans aucune condescendance, j'étais là-dedans au début, et c'est la fondation. Et quand tu as deux stocks, un stock séparé en deux endroits géographiquement opposés, quand tu as tous les matins à 6h des palettes à décharger dans la rue, enfin, c'est quand même chaud, quoi. Tu peux pas, enfin, c'est pas, c'est, enfin, ouais. Je sais pas, il y a une dichotomie totale, je trouve, entre ce qu'Apple peut faire de très bien pour l'accessibilité, pour des fonctions très à la pointe, pour inclure le plus de gens possible. Et derrière, les cordonniers sont les plus mal chaussés, quoi.
Ouais, et cette situation, elle fait office de révélateur, quelque part. Le problème, par exemple, que tu soulevais, là, de la boutique d'Opéra, avec une boutique d'un côté et les stocks de l'autre côté de la rue, ou la boutique de Pardieu, qui est toute pétée, quoi.
Ouais.
Les problèmes, ils étaient déjà là, mais quand t'es en fonctionnement dégradé parce que la boutique, elle est à moitié ouverte, et t'as des salariés qui, certains sont malades, ou certains sont... enfin. Ça pète dans tous les sens, et au bout d'un moment, je veux dire, il y a du travail, il y en a de plus en plus. La question, c'est, est-ce qu'Apple est prête à faire en sorte qu'il y ait de l'emploi, et qu'il y ait de l'emploi de la même manière qu'il y ait du travail, quoi. Et donc, au bout d'un moment, payer correctement ces gens-là, et embaucher suffisamment de gens pour faire le taf, et pas les laisser dans le noir. C'est pas normal qu'encore aujourd'hui, on ait des gens chez Apple qui prennent un abonnement au Club Hygiène pour avoir des informations sur les Apple Store. Ça n'est pas normal. je suis très content, hein, ça paye mon salaire, mais ça n'est pas normal.
Non, c'est ça, c'est ça. Bon, évidemment, il y a eu les polémiques d'Apple Too. Bon, je ne sais pas si on va en parler plus que ça, mais il y a toute une frange, on va dire, de crise sociale. Donc non seulement sur les salariés, mais aussi avec les différents, enfin les gouvernements.
Oui, mais même dans leur relation quelque part aux développeurs, ou Epic qui pique une crise sur Fortnite. Alors Epic, c'est pas un salarié d'Apple, mais quelque part ils bossent pour Apple.
Oui, ils ont quand même été invités à tellement de keynote aussi, on a l'impression qu'ils étaient salariés à un moment.
Oui, mais enfin, il y a une relation presque de soumission à Apple, et quand le business d'Apple marche pas, le business d'Epic marche pas. Et je trouve intéressant que Apple est de facto gagné par KO contre Epic, parce que finalement, la décision de justice, elle est très largement favorable à Apple.
Très largement.
Les ajustements qu'on demande à Apple sont minimes, quoi. Ça va absolument rien changer à l'App Store. Mais je trouve intéressant que le bateau prennent l'eau de partout. Et qu'on voit que le problème n'est pas technique. Le problème, il n'est pas matériel, il n'est pas logiciel, il n'est pas serviciel. Le problème, il est humain. Et je pense que c'est temps qu'on se souvienne que ces technologies, elles sont faites par des humains et que la bataille des années qui viennent, ça va être une bataille pour défendre ces humains. Dans tous les sens, hein, que ce soit les ingés, les designers, les devs, les gens à l'Apple Store, toi et moi qui faisons un podcast et que parfois les statistiques sont pas disponibles tout de suite. Les gens qui nous écoutent, qui se battent dans Apple Podcast et qui du coup migrent d'Apple Podcast vers Overcast, et je les invite à continuer à le faire. Enfin voilà quoi. C'est il y a.
Ouais.
Je pense que se souvenir qu'il y a des humains qui font ces produits et qu'il y a des humains qui utilisent ces produits, se souvenir que ces produits ne viennent pas de nulle part, ils procèdent de la main humaine, c'est pas tout à fait dispensable dans les années qui viennent, surtout quand vous êtes prêts, sortez vos cartes de bingo, on va parler de réalité augmentée et d'informatique vestimentaire. Ding ding.
Qui l'aurait cru ? Qui aurait pu prévoir ça ? Je ne sais pas. Voilà, évidemment, c'est pas une année non plus totalement. C'est pas une annus horribilis pour Apple pour autant, hein, j'ai l'impression. Et ni pour les utilisateurs. Enfin, je suis passé avec grand plaisir, et toi aussi, je crois, à l'iMac M1. Et
oui.
Donc, comme j'ai beaucoup d'originalité, je l'ai pris en argent ou gris. Ou je sais pas, enfin, le Mac coloré qui revient, du coup, je prends le coloris.
Le choix chiant.
Le choix chiant. Et je ne regrette rien, Anthony, je ne regrette rien. Et toi, le mauve, et c'est mauve ou violet qu'ils disent ?
Je crois que c'est mauve. Et effectivement, c'est un violet. Ça va, quoi. C'est pas le plus violet de tous les violets. Quoi.
Oui, c'est quand même. Et je suis extrêmement excited, j'ai pas envie de dire excité parce que à chaque fois ça me met mal à l'aise de dire ça en français, par les MacBook Pro 14 et 16 pouces, surtout le 14 pouces bien sûr, et j'ai très hâte de voir s'ils vont faire une version un peu pro de l'iMac en 2022, ce qui me plairait beaucoup personnellement parce que j'adore mon iMac, mais je sens quand même les limites. Comment dire, le fait est que c'est un ordinateur assez particulier et c'est une puce particulière parce qu'elle est très douée dans certains cas de figure qu'ils ont prévus spécifiquement, et dans ces cas-là elle fait des merveilles, mais dans les autres cas de figure c'est une puce relativement normale, voire parfois presque médiocre. Je dis presque parce que j'ai pas envie non plus de bouder le plaisir qu'il y a à utiliser ça, quoi. Et du coup, dès que tu sors des usages où elle excelle, c'est d'autant plus, c'est presque décevant, quoi, de retrouver quelque chose de normal. Donc il y a ce phénomène un peu chelou de c'est génial mais de temps en temps. En général c'est très bien et des fois c'est génial.
Ouais, c'est la blague que j'avais faite en 2020 j'avais dit bon c'est fini, je n'achèterai probablement plus jamais de Mac, et puis évidemment Apple m'a fait un iMac violet, donc game over. J'ai un peu sauté sur l'iMac, mais parce qu'en même temps avec le télétravail j'écris quand même un bouquin sur macOS, donc c'est pas tout à fait inutile d'avoir la nouvelle plateforme. Mais ça reste un ordinateur vers lequel il faut aller. C'est un ordinateur de bureau, il faut s'installer au bureau. Et la puce ne change pas ça, la finesse de l'écran, t'en profites pas quand c'est comme ça, dans ce cas-là. Enfin, ça reste un ordinateur de bureau, très joli, violet, très puissant pour ce que j'ai à faire, même quand je monte le podcast dans Logic ou quand je fais un peu de vidéo, de choses comme ça. Pas de souci. Je dois te dire que les MacBook Pro... Que ce soit à la fois cette espèce d'amalgamation du meilleur du design industriel d'Apple avec le châssis unibody, les nouvelles charnières, des choses comme ça. Et en même temps, un côté délicieusement rétro, ça rappelle un peu les G4 Titanium, des choses comme ça. J'ai pas envie de dire le retour des ports parce que ils ont enlevé un port USB-C pour mettre un MagSafe. Donc au final, on a un port USB-C de moins. Et lecteur de carte SD, c'est bien, mais ça change pas non plus la face du monde. Mais l'écran qui est quand même, il est superbe cet écran, quoi. C'est pas juste un bel écran, c'est le meilleur écran probablement de toute l'industrie.
Oui.
Et cette machine, elle est non seulement incroyablement puissante, mais l'autonomie est délirante, quoi. Nous, on a été obligés de revoir certains tests d'autonomie parce qu'on avait des tests d'autonomie qui duraient plus de 24 heures. Donc ça commence à devenir embêtant quand il faut faire un test. Mais c'est fou, quoi, de te dire, tu prends des tests super compliqués comme test de compilation du projet WebKit dans Xcode, Et le test dure 3 fois plus longtemps. C'est pas juste 20% plus longtemps, c'est 3 fois plus longtemps. Donc, non seulement tu compiles vachement plus rapidement, mais en plus tu peux faire 3 fois plus d'opérations. Et enfin, y a un truc, y a un truc qui casse dans mon cerveau, et j'ai des, dans mon grand dossier Numbers que j'ai depuis des années, j'ai des graphiques, donc j'ai été obligé de changer l'échelle. En ajoutant non pas seulement un zéro, mais deux, voire trois zéros. J'ai des tests, ils ont fait x 100. Donc c'est. Et sans que le prix ait explosé, enfin, il y a. Ça promet, quoi. C'est sympa. C'est cool. C'est emmerdant ce qui est quelque part tout ce chatter médiatique. Bien mal, j'en sais rien, mais voilà, Sésame et les photos pédopornographiques, l'histoire de la pub en ligne, le droit à la réparation, la facturation dans l'App Store, enfin tout ça, qui quelque part dilue un peu ce qui s'est passé, parce que Apple vient de remettre à zéro les échelles de performance, quoi. C'est quand même. Enfin, c'est pas rien, quoi, merde.
C'est pas tous les jours que ça arrive, c'est pas tous les jours que ça arrive, c'est clair. Ouais.
Enfin, quand t'es geek, c'est chouette, quoi.
C'est très chouette. Et je suis d'autant plus content que ça arrive sur Mac. C'est-à-dire que ça aurait pu très
Oui.
bien être quelque chose qui aurait pu. Enfin, Apple fait déjà ses propres puces sur iPhone et Apple Watch depuis très longtemps, bien sûr, mais enfin, depuis le début d'ailleurs sur Apple Watch. Mais c'est il y a quelque chose de réconfortant pour des vieux geeks comme nous, je pense, de voir le Mac à nouveau être propulsé comme ça en tête et de manière aussi décisive, quoi. Je pense que c'est pas tout de suite que la compétition va rattraper ça et que c'est juste une autre manière de penser, quoi.
Ouais, et ce qui est incroyablement satisfaisant, tu parlais de l'Apple Watch, les cœurs efficaces qui sont dans le processeur M1 Max, c'est le processeur de l'Apple Watch. Donc le MacBook Pro 16 pouces M1 Max, finalement, ça n'est qu'une Apple Watch. Mais quelque part, c'est plaisant de voir, ah, tu as les cœurs de l'Apple Watch et les cœurs de l'iPhone. Cette puce, la puce M1, tu la retrouves aussi dans l'iPad. T'as cette puce M1, M1 Pro, M1 Max dans le Mac. Donc t'as une espèce de filiation directe de l'Apple Watch au Mac. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que SwiftUI, pareil, hein, c'est un framework qui vient de l'Apple Watch. Donc tu vois comment tout cela fonctionne ensemble et s'enrichit et communique ensemble. Alors qu'il reste encore des murs à l'intérieur d'Apple, et tu te dis, mais bordel, s'ils étaient capables de faire communiquer correctement les équipes entre eux,
Mais
qu'est-ce
c'est
que ça
ça,
ferait, quoi?
c'est exactement ce que j'allais dire, c'est exactement ça. C'est cette dichotomie-là que je comprends pas. C'est à la fois absurde et fascinant de voir que d'un côté ils arrivent à faire un écosystème aussi cohérent et qui marche aussi bien ensemble. Alors évidemment, il y a des moments où il y a des ratés et tout ça, mais c'est quand même des choses, c'est anecdotique quoi, par rapport au fonctionnement en général et très harmonieux de tout ça. Et derrière une bêtise crasse et rétrograde. Extrêmement fermé d'esprit sur les relations humaines, quoi. C'est très chelou.
Et donc tu vois tout ça, tu vois finalement comment cette puce elle fait la synthèse du passé et en même temps tu vois ce qui arrive. Tu vois par exemple sur la puce M1 Max, il y a des interconnects. Très clairement, ils vont nous faire des iMac, peut-être pas, mais en tout cas des Mac Pro où tu auras deux puces qui seront connectées entre elles. Ils appelleront ça, je sais pas moi, le M1 Extreme ou le M1 Ultra. Vous l'avez entendu ici en exclusivité. Et on aura ça. Et donc je trouve ça assez satisfaisant, assez plaisant, parce que tu vois comment, de manière très littérale, on construit ces processeurs, enfin ces puces par bloc, puisque c'est ça, on prend des IP blocs et on les met ensemble, et c'est tellement facile que n'importe qui peut devenir ingénieur en processeur, ou presque. Le détail, c'est le presque. Et tu vois, voilà, comment ces puces procèdent de tout ce qui a été fait pour l'Apple Watch, pour l'iPhone, pour l'iPad, et comment elles mettent en place ce qu'on va voir l'an prochain. Je trouve ça. Ouais, c'est plaisant, c'est passionnant, vraiment d'un point de vue, enfin pour le geek que je suis, même pas pour le journaleux, quoi.
Ouais.
C'est incroyablement agréable que ce soit aussi facile à comprendre et que ce soit aussi facile de voir d'où ils viennent, où ils vont.
Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle clarté.
Ouais.
Ouais, je suis d'accord.
S'ils avaient été plus clairs quand ils avaient présenté leur truc avec les images pédopornographiques, ça aurait été mieux, tu vois.
Tellement. Tellement. Ça,
Ou avec
c'était.
Safari 15, quoi, tu vois, enfin.
Oh! J'avoue, mais en fait, c'est ça, et je pense que c'est le même stagiaire qui a fait la communication des deux. Je vois que ça comme explication rationnelle, quoi. C'est comme un peu comme le pied du. Et ce stagiaire était déjà là à l'annonce du Pro Display XDR, tu vois. Ils annoncent le pied du stand, le prix du stand, et ensuite celui de l'écran. C'est genre, mais enfin, pourquoi? ils ont trouvé la pire manière de l'annoncer, quoi. Ils sont creusé la tête pour trouver la pire façon de présenter la chose. J'ai pas compris.
Intégrer la base Sésame dans l'iPhone, non, juste non. Quand tu dis on est la plateforme la plus privée, non. On le sait que c'est un cheval de Troie, la question de la pédopornographie. On le sait que c'est un homme de paille. C'est le pire sophisme qui existe dans notre industrie, la question de la pédopornographie. C'est un vrai problème, hein, je veux pas minimiser la chose. Hein.
Bien sûr.
Mais ça n'est pas parce que ça existe qu'il faut faire des backdoors, qu'il faut niquer le chiffrement, qu'il faut... Enfin, non.
Mais c'est ça ou le terrorisme en général.
L'un ou l'autre, c'est les deux hommes de paille qui justifient que nous, gens normaux, on nous enlève, on nous gratte de plus en plus de droits qu'on a mis des décennies, voire des siècles à obtenir, quoi. Et que parce qu'on a changé d'échelle, ce qui à mon avis d'ailleurs est faux aussi, hein, il faudrait justifier tout et n'importe quoi. Et donc on va mettre cette base Sésame dans l'iPhone. Non. D'un point de vue communication, c'est stupide. Et on fait ça en même temps, et puis d'un point de vue moral aussi. Hein.
Oui.
Et on fait ça en même temps qu'une fonction qui est beaucoup mieux gaulée, qui est celle qui est dans Message sur la sécurité des communications, où quand t'as un enfant mineur, on parle des enfants de moins de 13 ans, et qui reçoivent une photo que un modèle de machine learning identifie comme étant une photo de quelqu'un poil, pour la faire courte. Enfin,
oui.
Sans vouloir préjuger du contenu des photos. On floute la photo et on dit au gamin « Attention, cette photo pose problème, est-ce que tu veux en parler à tes parents ?» Donc en plus, c'est bien, ça fait de la pédagogie,
bien
ça
sûr.
Invite le gamin à parler à ses parents.
Bien sûr.
Et Apple dit « Attention, les gamins entre 13 et 17 ans, c'est des adolescents, ils ont un peu des facultés mentales, on va les prévenir, mais on va les laisser faire, et on va les laisser aller vers leurs parents, on va les laisser se planter. Mm. » La fonction est vachement bien foutue, elle est pédagogique dans les deux sens. Pour les petits-enfants, on les invite à aller voir leurs parents, pour les adolescents, on les invite à réfléchir. Et on te fait ça, qui est une vraie fonction, on-device, une vraie fonction de protection des enfants. Donc là, on est en plein milieu du sujet,
ouais.
Qu'on fait en respectant tout le bagage moral, parfois un peu grandiloquent, on en a parlé ici même, d'Apple, la sécurité, la vie privée. Et à côté de ça, on va faire une quasi-backdoor dans iOS. Non mais bordel. Vraiment ?
C'est vrai. J'appelle ça la Microsoftisation. Tu vois, il y a une tendance chez Microsoft à s'aborder les bonnes idées qu'ils ont. Je sais pas comment dire. Genre.
Ouais.
Oui, enfin, est-ce que j'ai besoin d'illustrer ça? Je sais pas.
Non, je crois que c'est très clair.
Et tu vois, on parlait de la perméabilité qu'il y avait eu entre Windows et macOS. Peut-être que ça vient de là aussi, je sais pas.
Mais c'est ça.
Je pense. Hein. Je vois que ça, en tout cas.
Et tout ça part de ce péché originel qui est. Qui est cet homme de paille qui est la question de la pédopornographie. Enfin, tu t'es dit, mais s'ils sont pas fermes là-dessus, de la même manière qu'ils sont pas fermes sur qu'est-ce que c'est que les droits humains et qu'est-ce que c'est que la Chine, hein, s'ils sont pas fermes là-dessus, il y a des questions à se poser sur l'argument de la vie privée, quoi.
C'est ça.
Pour ça que j'en reviens un peu de l'argument de la vie privée, quoi.
Oui, dans ma tête, ça n'a jamais été un argument, ça a plutôt été un dogme. Je veux dire, c'est un article de foi, quoi.
Oui.
Il n'y a pas vraiment de justification. Il faut faire confiance. Enfin, t'as pas vraiment le choix là-dessus. Soit tu adhères sans remettre en question, soit tu es pas d'accord et tu adhères quand même. mais voilà, quoi.
Et Safari 15, ça procède un peu de la même chose, où cette idée de on renverse l'interface du navigateur et on met la barre en bas, qui est vraiment, à mon avis, c'est une réflexion qu'il faut avoir, hein. J'en démordrai pas, hein. Je pense que l'interface du navigateur est pas figée, qu'il faut qu'on continue à faire travailler la poutre.
Bien sûr.
Et tu te dis, mais bordel, c'est Apple, en interface ils ont des choses à dire, même si les gens sont pas contents, ils vont y aller. Ah bah non. Et puis à chaque bêta, on change. Non mais, on est où là? C'est Cupertino ou c'est Redmond? Enfin...
En t'entendant dire « on est où ?» Là, j'ai eu l'impression d'entendre mon père. Fais gaffe quand même. Ok.
Enfin, c'est vraiment surprenant de les voir avoir des opinions sur des choses incroyablement importantes d'un point de vue financier. Hein. La commission de 30% sur l'App Store, ça fait quelques milliards à la fin de l'année. Hein. Mais potentiellement, tu fais péter l'App Store, tu fais péter Apple, donc il faut pas tenir tête au gouvernement. Il faut que Tim Cook y comprenne que l'Assemblée nationale, la Commission européenne ou le Sénat américain, c'est plus fort que le conseil d'administration d'Apple. Donc tu les vois avoir une un entêtement bête et méchant sur ce genre de choses finalement très inconséquentes, et que mettre des liens dans les applications, ça change pas la face du monde et ça changera pas le business d'Apple, parce qu'à la fin, les gens, ils préféreront mettre leur carte soit dans Apple Pay, soit directement dans leur compte App Store et ne rien changer.
Bien sûr.
Et à côté de ça, ne pas tenir tête sur des choses qui sont potentiellement super importantes pour le futur de l'informatique. Enfin, tu fais, mais... L'année a vraiment été compliquée pour tout le monde, quoi. Vraiment. Les gens sont fatigués. Prenez des vacances, quoi. Faites comme nous. Revenez en janvier.